avec votre accord, j'aimerais répondre que la question a déjà fait objet de réponse dans une partie de la conférence. Parce que la question est, par quel livre doit-il débuter la quête de la science et quels doivent être les objectifs? Je crois qu'on a répondu à cette question durant la conférence. Là.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que faire lorsque chaque effort entrepris pour l'apprentissage n'aboutit pas toujours?
Non, premièrement, frère, j'aimerais te dire que si tu n'es pas toujours à quelque bien que ce soit, cela ne te fait que pure grâce de la part de la Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit « وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ » Quelque bien que vous possédiez, cela provient d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ainsi, le savoir qui est le plus grand bien ne peut provenir d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc premièrement, chers frères, lorsque tu vas apprendre, demande l'aide d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. L'état d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih Muslim, dans le Hadith d'Abu Huraira, احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Il dit, fais l'effort dans ce qui est ici et demande l'aide d'Allah et ne sois pas paresseux. Donc, la première chose à observer lorsque nous voulons apprendre en ce qui concerne les moyens par lesquels nous réussissons notre apprentissage, c'est de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, tel qu'indiqué dans les hadiths précédemment cités, ne pas être paresseux, faire des efforts. Car l'apprentissage de la science ne peut n'être possible qu'à travers l'effort. Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué, a montré, a indiqué, je veux dire, la science comme étant du jihad. Allah dit, fala kufir al-kafirin wa jahidhum bihim jihadan kabira. Il dit au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'obéis pas aux mécréants et fais-leur avec ce Coran une guerre, une grande guerre. Or, cette guerre est celle dont Allah subhanahu wa ta'ala parle lorsqu'il dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Il dit, nous allons vous éprouver jusqu'à ce que nous distinguions ceux qui font l'effort et qui sont patients d'entre vous. Donc, il faut faire les efforts lorsqu'on apprend, cher frère, et se réexaminer, voir si tu n'as pas abandonné l'effort à un certain niveau. Et une chose qui est bon de mentionner ici aussi, c'est que la motivation qu'on trouve dans le cœur, dans l'apprentissage de la science, dépend de la puissance de l'intention, de la force de l'intention. Plus l'intention est pure, plus on trouve de la force à apprendre et on parvient à écarter tous les écueils, toutes les causes possibles d'échec, quelques grandes soient-elles. C'est pour ça qu'il est rapporté d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui l'a dit, innama yu'tannas wa la qadri niyatihi. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne donne la science aux gens qu'en fonction de leurs intentions. C'est-à-dire que plus l'intention est pure, plus il est nourri de savoir, plus il obtient le savoir. Et moins l'intention est pure, de même, moins il acquiert le savoir. Enfin, mon frère, il faut voir les causes pratiques. Les causes pratiques qui t'empêchent d'apprendre. Car, il est vrai que le savoir est important, certes, mais il est aussi vrai qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'occupations qui peuvent empêcher d'apprendre. Donc, il faut être intelligent dans le management de son temps et voir les choses qui empêchent, les causes qui ont empêché que ces tentatives d'apprentissage échouent. Et Inch'Allah, en observant ces choses et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous instruire, nous allons trouver l'intelligence et la force qu'il faut pour y arriver, Inch'Allah.
Je voudrais savoir comment se comporter quand les gens qui nous appellent chefs, tant simplement parce que nous détenons la base, etc.
Et là, tu lui expliques que tu n'es pas cher, quelqu'un. Et tu t'appelles par ton nom, je crois qu'il va comprendre. Si tu l'expliques ça sagement et calmement, je crois qu'il va comprendre. Et si tu lui montres aussi que tu n'es pas content que tu t'appelles comme ça, je crois pas que quelqu'un qui te fait tant serait content que chaque fois que tu le rencontres, que tu ne sois pas content de lui. Donc si tu lui expliques cela, si tu lui expliques que tu veux seulement que cela t'aide à être un, je crois qu'il va comprendre que tu vas arrêter de t'appeler un fils.
Yacoub, si tu cherches la connaissance et tu ne comprends pas, tu fais comment? C'est-à-dire, tu apprends et tu ne comprends pas. Que dois-tu faire? Étant donné qu'Allah donne la science à qui il veut. Barakallahu fik.
Non, il est vrai, chers frères et sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala donne la connaissance à qui il veut. Non. Mais jusqu'à ce que tu meurs, tu ne peux pas savoir si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de te donner le savoir ou pas. Tu ne peux pas le savoir, n'est-ce pas? Or, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé d'apprendre. Donc, premièrement, si tu dis que étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la chance à qui il veut, pour te trouver une excuse d'arrêter d'apprendre, tu peux écarter cette hypothèse. Mais déjà, écarter cette hypothèse. Et donc, toute la question va se concentrer autour de comment résoudre le problème de j'apprends et je comprends pas. Comment résoudre ce problème? Non? Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, chers frères et sœurs, à son messager sallallahu alayhi wa sallam et à d'autres prophètes et concernant d'autres prophètes, à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa anzalallahu ilayka al-kitaba wal-hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Et il a fait descendre sur toi le livre et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et en parlant de Daoud, il a dit fa ataahu Allahu al-'ilma wal-hikma wa 'allamahu mimma yasha. Il lui a donné le livre et la sagesse et lui a enseigné ce qu'il a voulu. Ce que nous prenons de ces deux versets, chers frères et sœurs, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui enseigne à qui il veut. Donc, celui qui apprend doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui enseigner. C'est pour ça que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de dire Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Donc, il faut faire beaucoup d'invocations. C'est la première cause du succès en toute entreprise. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, avec présence du cœur, et en essayant de rassembler les causes d'acceptation de l'invocation. Comme par exemple, faire l'effort de délaisser le péché. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala aux heures d'exaucement, comme après la jeûne et avant le qama, comme pendant le dernier tiers de la nuit, comme après Af. Les jours de vendredi, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, pour parler plus pratiquement, il se peut que la raison pour laquelle la personne ne comprend pas est que la personne n'a pas suivi la méthode qu'il faut. Parce que, à toute chose, pour toute chose, il y a une cause et une voie. Et si la personne s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, fait l'effort tel que nous l'avons indiqué et essaie de suivre la méthode qui va du plus facile au plus difficile tel que nous l'avons montré, et en faisant l'effort, en fuyant la paresse, il se peut, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce problème trouve résolution.
Je n'en sais rien à propos du corps de la bague.
De la bague?
Aïe.
Si la personne demande si c'est permis, non, c'est permis. À condition que ce ne soit pas mort.
D'accord. Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre ce sentiment d'orgueil et de fierté qu'on ressent éventuellement, lorsque l'on suscite de l'admiration dans le cœur des gens,
نعم. لما صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. Il dit l'on acquiert le savoir en faisant l'effort d'apprendre. Et l'on acquiert la douceur en faisant l'effort d'être doux. Et dans un autre hadith, il dit وَمَنْ يَتَصَبَّرْ dans le Sahih Bukhari, dans le Hadith d'Abi Sa'id al-Khudri. Il dit مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Et quiconque fait l'effort de devenir patient, Allah subhanahu wa ta'ala l'aide à devenir patient. Pourquoi je mentionne ces hadiths? Pour dire que tout bon caractère enseigné par la religion ne peut être accessible qu'en faisant l'effort de chasser de son cœur ce qui est contraire à cela et en faisant l'effort dans le sens qui convient à ce caractère. C'est-à-dire de chasser cela de son cœur lorsqu'on ressent cela et de faire ce qui nous aide à être humble. Par exemple, ce qui a été cité, Jihad Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une œuvre qui l'aide lui-même, qui aide l'homme à être humble. C'est-à-dire, lorsque tu vois ce qui t'aide, l'œuvre qui te fait sentir petit, tu l'accomplis. Par exemple, prendre la chaussure de quelqu'un qui l'a mis à la mauvaise position, par exemple, saluer les enfants quand on passe, et ceci est cité. Dans certains livres de hadith, dans le chapitre de l'humilité, dans certains livres de hadith, on a cité, j'ai oublié quel livre exactement, je crois Riyad al-Salihin. Non, dans Riyad al-Salihin, l'imam al-Nawawi a cité dans le chapitre de l'humilité, le hadith de Anas, qui dit que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il passait devant des enfants, il leur disait assalamu alaykum. C'est-à-dire que les yeux qui nous rappellent l'humilité nous aident à être humbles. Ceci sont des voies pratiques qui nous aident à acquérir ce trait de caractère tout en gardant à l'esprit que tout bien, quand tout bien que nous recherchons, il faut premièrement s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'invocation. Non.
D'accord, si ton père t'envoie si tu l'as bien, comment dois-tu te comporter?
Nous avons promis de nous répondre aux questions qui concernent la conférence. Mais cette question, il y a beaucoup de malentendus en ce qui la concerne. L'on dit par exemple que ce n'est pas vrai que le prophète Ibrahim a pris des idoles de son père et allait les vendre en disant qui achète ce qui ne lui sera pas utile. Ceci n'est pas vrai. Ce sont des choses qui sont rapportées dans des livres de contes, des gens du livre, les juifs et les chrétiens, et ce n'est pas vérifiable du point de vue de la science des hadiths. Cependant, il est établi que le message de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La ta'ata innama ta'adu fi ma'ruf » Il a dit « L'obéissance n'est permise que dans le bien ». Ainsi, s'il est obligatoire d'obéir à son père, il n'est permis d'obéir à son père que dans ce qui est conforme à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'enfant peut être une cause de guidance de son père. Donc, si ton père t'envoie ou te demande de faire quoi que ce soit qui est contraire aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, fais l'effort de parler à ton père avec l'humilité qui convient au discours de l'enfant vis-à-vis de son père et essaie de lui expliquer que celui qui vous a créé, lui et toi, et celui devant qui vous serez ramené et jugé, et celui qui a été la cause pour que ce soit lui qui est ton père, celui-là a interdit l'alcool. Et donc, par obéissance à celui qui vous détient, vous deux, tu ne peux pas accepter de lui acheter de l'alcool. Voilà.
Comment fais-tu pour que ta religion s'ajuste de valeur?
Encore une fois, cette question n'est pas dans notre sujet. Et moi, je peux te dire déjà que moi, je ne pratique pas ma religion à sa juste valeur. Donc, que ce soit moi qui réponds à une telle question, c'est un peu lourd, en fait. Cependant, nous pouvons nous rappeler les voies par lesquelles nous pouvons pratiquer ce que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Parce qu'il a dit « Sed didou wa qaribou ». C'est-à-dire, faites l'effort d'être juste et de vous rapprocher le plus de la justesse. Non. Et les voies de cela, chers frères et sœurs, c'est d'abord la conscience de la science. Bien entendu, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala et en remettant en lui, à lui. C'est la cause première de tout bien, telle que nous l'avons dit tout à l'heure. Ensuite, apprendre la religion, nous inspire cette lumière que nous avons évoquée et nous montre comment elle nous permet de distinguer les voies du bien des voies du mal. Et donc, de nous comporter conformément à notre religion. Non. Mais une chose que nous oublions souvent, chers frères et sœurs, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour nous éprouver. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalih wa ja'alnahu samian basira. Nous avons créé l'homme d'une goutte mélangée afin de l'éprouver. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour nous éprouver et nous a promis que la voie du bien sera difficile. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit en critiquant l'homme, il dit « Fa maftaha man aqada wa ma adraka man aqada fa qurqada aw iqamu fi yawm al maqrada yatiman za maqrada aw miskinan za maqrada thumma kana min alladhina amanu wa tawafu bis sabr wa tawafu bil marham. » Allah subhanahu wa ta'ala critique l'homme en disant que l'homme refuse de choisir la voie difficile. Non, que l'homme refuse de choisir la voie difficile. Il dit, c'est quoi la voie difficile? C'est de nourrir un orphelin ou un pauvre. Non. Ensuite, de faire l'effort d'être parmi ceux-là qui ont la foi et qui s'enjoignent la patience, l'endurance et s'enjoignent la miséricorde entre eux. Ce que nous voulons indiquer ici, c'est que l'homme ne peut pas suivre la voie du bien sans faire la guerre à sa propre âme. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ » Quiconque fait l'effort, il ne fait l'effort que pour sa propre personne, que pour son propre avantage. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala a promis de ne guider que ceux qui font l'effort. Lorsqu'il a dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui font l'effort pour notre cause, nous les guiderons vers nos voies. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne guide que ceux-là qui font l'effort pour se mettre sur la voie du bien. Et Allah azza wa jalla a même dit que malgré que c'est lui qui a égaré les polythéistes du temps du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولى وهم معرضون. Et si Allah subhanahu wa ta'ala avait vu en eux quelque bien que ce soit, il leur aurait fait entendre la révélation. Seulement, s'il les avait fait entendre, ils se seraient détournés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a égarés parce qu'ils n'avaient aucun penchant vers le bien. C'est pour ça que celui qui a le penchant vers le bien et fait l'effort dans ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala le guide dans la voie du bien. Allah subhanahu wa ta'ala le guide dans la voie du bien.
Amen. 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 Comment purifier nos cœurs pour mieux comprendre la science de notre religion?
Muito legal.
Aí, ó. particular and unique about him.
Mm-hmm.
By the time. Therefore, lorsqu'on apprend, on doit commencer par les choses plus importantes, lesquelles. Mm-hmm. Jusqu'à procéder. Quelles peuvent être les œuvres d'apprentissage du savoir? Quelles peuvent être les œuvres d'apprentissage du savoir?
Simplement, j'ai pas compris la question ici. C'est la personne qui répit la question d'une autre façon. J'ai pas compris que cela ne réussit pas.
D'accord. Je demande comment apprendre la chanson en arabe.
Je ne dis pas chanter dans une tête.
Lorsque vous parlez de la science, est-ce que ça veut dire que la seule science qui mérite une attention particulière est la science religieuse? Quelle est la place des autres sciences?
Non, c'est pas ce que ça veut dire. Deuxièmement, quelle est la place des autres sciences en fonction du besoin qu'on a envers ces sciences? Ici, une science d'un tel état religieux peut être obligatoire ou surérogatoire ou interdite ou bien détestable. Non. Par exemple, si l'on ne peut se soigner, ce qui est obligatoire, qu'en apprenant la médecine, alors l'apprentissage de la médecine est obligatoire. Donc l'apprentissage de la médecine, par exemple, est une obligation communautaire, c'est-à-dire qu'il est obligatoire que certains gens de la communauté apprennent la médecine. Parce que l'on ne peut se soigner, ce qui est obligatoire, d'un certain point de vue, parce qu'il y a divergence parmi les savants sur est-ce qu'il est obligatoire de se soigner, ou sur les obligatoires, ou des questions, ou... C'est un débat parmi les savants. Mais puisque le prophète a dit « Kadawa, voilà le Kadawa de Haram », soignez-vous, mais ne vous soignez pas avec ce qui est interdit, donc ce moment on dit que se soigner est obligatoire. Puisque cela est réalisable en apprenant la médecine, on est obligé d'apprendre la médecine. Puisque les terres de l'islam ne peuvent que dépendre de la gestion des non-musulmans, qu'en apprenant les sciences de la guerre, par exemple, les sciences de fabrication des armes, qui sont conformes au mode de guerre d'aujourd'hui, il est obligatoire d'apprendre ces sciences. Quand par exemple, nous ne pouvons, nous autres musulmans, réaliser le fait que nos soeurs et nos épouses n'accouchent qu'au frais des femmes, qu'en ayant des hôpitaux à nous musulmans, ce qui n'est possible que si des femmes spécialisées apprennent la médecine dans ces spécialités, alors apprendre la médecine dans ces spécialités est obligatoire. Donc, en fonction de la finalité de ce pourquoi on apprend la science, le jugement change. L'âme, c'est ça la réponse. Et j'aimerais montrer que ce n'est pas ma réponse à moi, et que ce que j'ai dit, je l'ai lu dans un livre de Gérard Lefermier, je ne me rappelle pas lequel, même si ce qui est connu des règles de la charia, sauf que lorsqu'on cite des savants, cela a plus de poids dans le cœur des gens. Dans ceci, je l'ai lu, le livre de Charles le premier, je ne me rappelle pas lequel.
Yacoub, est-il conseillé à un musulman ou une musulmane de manger une viande égorgée par un voyant ou un marabout sans connaître le pouvoir cette viande a été égorgée?
Non, cela n'est pas permis parce qu'il est connu que des gens égorgent la cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Non? Et parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, il y a au fitral ou hilla le rayullahi. Ou bien une perversité qu'on a égorgée pour cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il est possible, telle que la question l'indique, que la personne est égorgée pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais puisqu'il y a déjà une certaine ambiguïté dans cette personne, il est mieux de se faire de ce qui est égorgé par la personne, parce qu'il y a probabilité qu'en fait cela soit de l'ordre de l'exorcisme.
Qui est considéré réellement constitutionnel au sein islamique?
Premièrement, j'ai entendu un savant qui est Cheikh Sari, Abdullah bin Hamad al-Husseini, qui est actuellement dans le conseil national saoudien, le grand savant, il disait quelque chose qui est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais visé un temps des savants qui expliquent leur religion aux musulmans. Et ce qui est conforme au dire du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est que voilà que Allah wa ta'ala ne fait pas jamais d'y avoir il ne fait pas jamais d'y avoir dans ma communauté un groupe de gens qui sont sur la vérité et apparent sur la vérité. Ainsi, il y a toujours des savants connus comme étant des savants, dont la qualité des savants, dont la qualité des savants ne fait aucun doute parmi les musulmans. Les étudiants en sciences religieuses sont ceux-là qui sont connus comme ayant étudié auprès de ces savants, soit dans leurs assises, soit dans les institutions qui ont été établies par ces savants, et on enseigne selon la méthode de l'islam de la Sunna qui a été établie dans ces institutions comme méthode d'enseignement. Voilà ce qu'on peut considérer comme étudiant en tant que diplôme général.
Mais cela dans vous, comme c'est dans la variante du Jésus, quels sont les comportements des musulmans dans une nation chrétienne?
Ceci est un sujet qui est écrit dans le livre Défis du savoir. Et selon cette question, dans ce livre, c'est l'objet de plusieurs chapitres. Donc, il n'est pas possible d'en parler en quelques minutes de façon complète. Mais le plus important, déjà, c'est de venir dans la vie avec l'intention de bénéficier du savoir pour accéder à la récompense dans la Subhanahu wa ta'ala, se délivrer de l'ignorance, augmenter sa part de science pour améliorer sa part de pratique. Deuxièmement, dans la vie, il convient d'être attentif à ce qui est dit. Et de ne donc pas se livrer aux conversations de bord avec les voisins ou de faire toute chose qui porte atteinte au bon suivi de ce qui est dit durant la vie. Voici ce que nous voulons évoquer comme étant le plus important. Cependant, il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées dans ce sens dans la livre de Cité Savoir.
Que dites-vous de l'apprentissage sur Internet? Et comment reconnaître une personne digne de confiance chez ton patron? Peut-on apprendre sans l'aide de quelqu'un?
Premièrement, l'apprentissage sur Internet est exactement comme l'apprentissage sur Internet, dans un certain sens. Dans le sens où vous devez connaître qui dispense le cours et quel est le cours dispensé et quels sont les rendez-vous et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous apprenez en ligne chez un savant que vous connaissez, de sorte que vous avez par exemple, une connexion qui est bonne et donc qui ne s'en coupe pas, si bien que vous suivez ce qui est dit de vous, sans vous, cela est absolument permis et pratiqué par les savants d'aujourd'hui. Beaucoup de savants aujourd'hui, lorsqu'ils font des cours, les dispensent aussi en direct à travers Internet. Par exemple, Cheikh Abdullah Ibn Abbas, son fils, Cheikh Abdelazah, Abbas, les cours sont dispensés en direct. Si vous voulez suivre leurs cours, vous entrez sur Internet, vous écrivez en arabe, dans le Cheikh Abdelmansi Al-Abbas. À l'heure de Maghrib, à Médine, après Maghrib, vous entrez, vous suivez le cours en direct. Donc cela est absolument permis. Mais les savants, ce qu'ils font pour différencier le cours en ligne et le cours terre sur terre, si on peut dire ça comme ça, c'est que lorsque, par exemple, ils veulent donner la permission à l'étudiant de transmettre ce qu'il a pris d'eux, ils ne donnent pas ceux qui ont suivi les cours en ligne. Parce qu'il est possible qu'il y ait des interférences ou bien qu'ils entrecoupent les cours ou des choses du genre qui font qu'il n'y ait pas vraiment une confiance absolue dans le fait que l'étudiant ait suivi le cours de bout en bout ou pas. Sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala lui indique la vérité. Si tu recherches quelqu'un qui peut t'enseigner ta religion et qui soit digne de confiance, et que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'indiquer cette personne, tu vas voir en celui qui est digne de confiance les signes qu'il mérite la confiance des musulmans. Tu vas voir dans ce qu'il dit les signes qu'il a été éduqué dans la voie du savoir. Et tu vas voir dans sa façon de vivre qu'il a été imprégné de ce savoir et qu'il peut le transmettre sans trahison. Non, ce que j'ai aussi entendu les chefs, pas à l'hôtel de le dire, c'est quiconque les chefs, les hommes de science, alors que ça va bien dit, les hommes de science. Car, de même que la vérité est évidente à quiconque la médite, et de même, les gens de science sont évidents à qui font leur recherche et réfléchissent sur les gens qui prétendent tous être les gens dignes de confiance. Peut-on apprendre sans règle de certains? Non. Non.
Qu'est-ce que la science? l'islam fait la différence entre la science et la science politique. Quel est le sens de faire une science politique?
La personne demande qu'est-ce que la science en islam? Non, qu'est-ce que la science en islam? La question c'est, qu'est-ce que l'islam considère comme étant savoir? C'est une question. Différent de la question, qu'est-ce que le savoir islamique qui est celui qui est élevé du Coran ou de la Sunna? Et de ce qui s'en est détaché, comme les sciences qui ont été déduites du Coran ou de la Sunna par les sciences au son de pareil de Fakhriya, au nom du Shadis, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que l'islam considère comme science? Il y a un grand débat entre les savants. Qu'est-ce qui est science, ce qui n'est pas science? Non, ce n'est pas le lieu de connaître ici, et je n'ai même pas tous les détails à ce sujet. Mais c'est temps pour savoir déjà que tout ce qui est appris, ce qui est sujet de connaissance, est une science. Maintenant, est-ce que l'islam fait la différence entre science utile et science non utile? Non. La science utile soit soit qu'elle soit religieuse, comme la science islamique, elle est complètement utile. Et la science inutile est forcément non religieuse. Mais ça ne veut pas dire que toute science qui n'est pas religieuse est inutile. Car il y a des sciences qui ne sont pas religieuses, qui sont utiles et même obligatoires, telles que nous l'avons mentionné. Il y a des choses qui sont non seulement inutiles, mais aussi nuisibles et haram. Comme l'apprentissage, par exemple, de la magie. Même si on ne pratique pas la magie. En plus, il y a des sciences qui ne sont pas forcément interdites, mais qui sont inutiles. Par exemple, le fait que les Arabes avaient la tradition d'apprendre les ascendants de leurs parents, apprendre de tel, et puis de tel, puis de tel, puis de tel, puis de tel, jusqu'à Ibrahim a.s. Ceci est une science inutile, tel que les parents l'ont indiqué. De même que l'apprentissage d'une science comme la marche, comme le marche, la syntaxe, au-delà de ce qui permet de bien parler et de bien comprendre ce qu'on lit. Maintenant, est-ce que le corps occidental est ici ou pas ici? C'est une question qui me dépasse. Non. Parce que justement, c'est une question qui est très sensible de nos temps. Et les savants se sont prononcés là-dessus. Et déjà, que je comprends cette question dans le sens, est-ce que l'école qu'on fait aujourd'hui dans les écoles chez nous est utile ou inutile? C'est dans ce sens que je comprends. Sinon, dire école occidentale, c'est une erreur. C'est pas une école occidentale, d'ailleurs. C'est pas les occidentaux qui ont vendu la physique, la chimie, et tout ce qui est. Non, c'est pas une science occidentale. Je vais parler de l'école comme étant chez nous. Non? Quant à ces sciences qui sont enseignées, elles sont ici. Maintenant, est-ce que l'école, telle que nous la faisons chez nous, et ces objets de disciples aujourd'hui au milieu des gens, est-ce qu'il y a plus d'intérêt à les étudier ou pas à les étudier? J'ai mon point de vue là-dessus, mais je ne suis pas savant pour faire une fatwa. Les savants sont divergés là-dessus, sur le fait que les élèves, que les musulmans qui sont en pays non musulmans à l'école ou pas, il y a divergence entre les savants. J'ai mon point de vue là-dessus, je ne suis pas savant pour faire une fatwa. Allah. Il y a une question en anglais, je suis le pire des anglophones. Some who have just joined Islam, which aspect of science is advisable for me to begin first? Is this a question? Il y a du monde qui a posé la question. D'abord, je vais savoir si je suis bon en français parce que je suis pas un bon francophone, je suis pas un bon anglophone. Quelqu'un qui vient de toute la nuit, quelle branche du savoir on peut lui conseiller comme commencement? Les différentes réponses que nous avons apportées sur la méthode et par quoi il faut commencer la science, sont valables pour celui qui vient de toute la nuit, comme pour celui qui est musulman, même de naissance, mais qui n'a pas encore commencer à prendre. C'est-à-dire qu'on doit commencer par le calcul et la foi, et ensuite par les éléments de base de l'adoration comme les ablutions et la prière, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, apprendre les choses qui sont obligatoires, particulièrement, et pas à tous les musulmans en général. Par exemple, si quelqu'un de riche, et qui doit verser sa zakat, il est obligatoire d'apprendre les règles de la zakat. Si quelqu'un de riche, et qui doit chercher le pèlerinage, il est obligatoire d'apprendre les règles du pèlerinage, ainsi de suite, ainsi de suite, pour l'enjeu. Cela nous accorde le bénéfice de tout ce que nous avons dit, entendu, et nous pardonne pour nos péchés grands et petits. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.